Bonjour à chacun. Nous avons chanté plusieurs, j'ai relevé plusieurs phrases de ce qu'on a chanté, être à ses côtés. En toi, j'ai tout à la croix du calvaire, plus près de toi. Je veux te connaître, je veux m'abandonner. Et plein de phrases qui expriment ce que nous ressentons, ce que nous voulons vivre. Nous allons ouvrir la Bible d'entrée, de suite. Et on va rester là-dessus, il n'y aura pas d'annonce par la suite, parce qu'on n'a pas d'annonce spéciale, si ce n'est les habituelles. Et je voudrais vous inviter à dire, Seigneur, parle-moi encore ce matin, je crois que c'est le désir de chacun, dans Colossiens, au chapitre 2, un verset d'introduction, Colossiens chapitre 2. Attendez que je ne me trompe pas. 6, Colossiens chapitre 2, verset 6. Juste le verset 6, même si la phrase continue par la suite. Colossiens chapitre 2, verset 6. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, qu'est-ce qu'il est dit par la suite ? Marchez en lui. Hein ? Certaines autres versions disent un peu la même expression, mais autrement. Donc il est dit ici, ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Hein ? Marchez en lui. Et c'est là le message de ce matin, c'est marchons en Christ et continuons à marcher en Christ. Je crois que pour marcher en Christ, il faut déjà être en Christ. Et c'est mon premier point, il faut déjà être en Christ. On ne peut pas marcher en Christ si on ne connaît pas le Christ. On connaît la Bible et on sait pour plusieurs d'entre nous ce que ça veut dire. Mais pour l'imager, pour l'expliquer ou le rappeler à nos cœurs, ce premier point, je voudrais aller dans le livre de Josué. On va s'arrêter ce matin sur le livre de Josué, à quelques pages du livre de Josué, au chapitre 3. Nous arrivons là dans ce temps où Moïse n'est plus, la génération est morte dans le désert, nous sommes avec une nouvelle génération, et cette nouvelle génération doit maintenant entrer en Canaan. Mais avant d'entrer en Canaan, vous savez, il y a plusieurs étapes. Et la première, au chapitre 3, verset 15, et lorsque les porteurs de l'arche arrivèrent au Jourdain et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche baignèrent au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses berges tout le temps de la moisson. Les eaux qui viennent d'Amon s'arrêtèrent et s'élevèrent en une seule masse et une très grande distance d'Adam, la ville qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendent vers la mer de la Araba, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple traversa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel se tinrent au sec, de pied ferme, au milieu du Jourdain. Et tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de traverser le Jourdain. Amen. On connaît l'histoire, bien plus peut-être l'histoire de la traversée de la mer Rouge, mais là, nous avons encore un endroit, une histoire, un récit qui nous parle de la traversée du Jourdain. Et nous revenons à notre réflexion de départ, marcher en Jésus-Christ. Pour marcher en Christ, il faut être en Jésus. Ici, ils sont devant l'infranchissable. C'est-à-dire qu'il nous est précisé que le Jourdain, à ce moment-là, est en crue. Et ils ne pouvaient pas traverser comme cela facilement. Bon, peut-être ils auraient pu trouver des solutions humaines, mais le Jourdain est en crue en cette période. Et ce Jourdain infranchissable représente pour chacun d'entre nous quelque chose. Il représente en fait le Jourdain comme la mer Rouge, la colère de Dieu, le jugement de Dieu contre l'impiété, et il est impossible de franchir. C'est-à-dire que l'être humain qui ne connaît pas Dieu, il est comme devant une impossibilité de pouvoir aller vers Dieu, parce qu'il y a là la colère de Dieu, la justice de Dieu, le châtiment de Dieu qui demeure. Et la Bible est très claire là-dessus. Si on ne connaît pas la grâce de Dieu, eh ben on est comme ces hommes qui sont devant le Jourdain et qui ne pourraient pas franchir. Celui qui ne connaît pas la grâce de Dieu, il est malheureusement dans l'incapacité de passer outre le jugement et le châtiment de Dieu. C'est Jude qui dira ceci. Il est là pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. C'est-à-dire que le châtiment de Dieu est inévitable. Il viendra un temps où la justice de Dieu se manifestera Et celui qui ne croit pas sera condamné. Nous le savons, je ne fais que rappeler ces choses. Mais s'il y a des amis parmi nous ou qui nous écoutent qui ne sont pas encore en Christ, sachez que vous êtes dans une incapacité, comme on l'a été tous. À un moment donné, tout être humain est plongé dans cette incapacité et dans l'incapacité d'aller vers Dieu. Et le seul moyen, c'est un moyen surnaturel, miraculeux. Et ici, on l'a vu, quand ceux qui portaient l'arche de l'Alliance entraient et mettaient le pied dans l'eau, aussitôt le Jourdain qui était en cru, il s'est ouvert. Et ils sont passés à sec. Mes amis, c'est quand même extraordinaire. Hein, alors il y a des gens qui ont dit tout un tas de trucs, mais peu importe hein, sur le phénomène, ce qui se passe, ce qui s'est passé a été réel. Et tous ont pu traverser à sec. Et quand d'ailleurs ils ont par la suite pris des pierres qu'ils ont sorties du Jourdain et d'autres qu'ils ont rentrées dans le Jourdain, il y a eu tout un temps de choses qu'on va voir peut-être rapidement. On voit que le Jourdain ne s'est pas refermé. Cela nous parle de la grâce, parce que c'est grâce à l'arche, si vous voulez, qui était là, mise là, dans le Jourdain, que ça s'est ouvert. Et si on fait le parallèle avec la grâce de Jésus, c'est grâce à Jésus-Christ et à l'œuvre de Jésus sur la croix, sa mort sur la croix, je le dis en souriant, mais c'est parce que c'est tellement beau et extraordinaire, mais en même temps c'est tellement dur pour nous de comprendre ça. C'est simple, mais c'est compliqué, à la fois dans le sens de notre logique. Mais quand Jésus est venu sur cette terre, il est mort sur cette croix, c'est pour ouvrir un accès, pour aller maintenant franchir ce qui est infranchissable. Non pas parce que nous méritons, nous avons changé, nous sommes bien, etc., mais parce que lui a tout accompli pour que cet accès soit ouvert. C'est pour ça qu'il dira « je suis la porte » et on pourrait prendre tout un tas de versets qui parlent de cette réalité. Grâce à Christ, le jugement et le châtiment qui en découle ne sont plus. Quand Jésus va dire « celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu ». C'est-à-dire que si je ne crois pas que Jésus m'a ouvert cet accès pour aller vers le Père, eh bien je suis encore dans la condamnation. Je subirai le châtiment à un moment donné. Un autre passage de Jean dira ceci, Jean 5, 24. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Et des fois, quand on lit la Bible, c'est difficile, bien sûr, de faire tous ces parallèles, ces compréhensions, et ne vous découragez pas si vous n'arrivez pas à les faire, c'est normal, ça prend un peu de temps, mais plus on va dans la marche avec Dieu, plus ces choses s'éclaircissent, et c'est clair à nos yeux, et c'est bon pour nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça, c'est formidable. Ça veut dire tu es libre, ce que tu ne pouvais pas faire par ta nature, par la grâce de Jésus, parce que tu es en Christ maintenant, tu es passé près de Christ, au pied de la croix, tu peux maintenant marcher en lui. Tu peux marcher en lui. Il y a des gens qui sont baptisés d'eau ici. Levez la main pour voir. C'est pour voir si vous suivez. Voilà, je vois pas, je sais que vous suivez. Devant, là, je sais, mais au fond, je ne sais pas. Mais je vous vois de loin, c'est pour ça, hein. Ce n'est pas une critique. Hein. Voilà, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus. Mes frères et sœurs, si tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation. Tu marches maintenant, tu peux marcher en nouveauté de vie. Hein. C'est le psalmiste qui dira, et j'aime cette image, et je lisais un passage qui commentait un psaume, et il dira ceci, « Peut-il y avoir une image plus saisissante des eaux du jugement dans lesquelles notre Sauveur est entré ?» Le psaume 42, verset 7, dit ceci, « Un abîme appelle un autre abîme à la voix de tes cataractes. Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. » C'est comme si Jésus disait ça quand il est mort sur cette croix. C'est ce châtiment que les hommes devaient subir, je le supportais à leur place. « Un abîme appelle un autre abîme à la voix de tes cataractes. Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. » Traverser le Jourdain. Si quelqu'un n'a pas encore traversé le Jourdain, vous comprenez ce que je veux dire ? Entrez dans la grâce de Jésus-Christ. Passez par ce chemin qui est ouvert pour vous encore. Parce qu'il viendra un temps où il ne sera plus ouvert. Il viendra un temps où, comme la porte de l'arche sera fermée, mais de même, le passage sera maintenant impossible. Parce que Jésus laisse encore l'opportunité à tous ceux qui n'ont pas cru de croire par sa grâce. Il veut sauver. Il veut arracher des ténèbres encore. Il veut agir. Traverser le Jourdain, ça signifie... Le Jourdain, ça signifie celui qui descend. Bon, on peut le comprendre, du mont Hermon, ça descend jusqu'à la mer Morte, qui est à moins de 200, je ne sais pas combien, mètres sous le niveau de la mer. Hein. Il descend, celui qui descend. Mais comme le jugement qui descend sur l'humanité un jour, il va être là. C'est certain, c'est quelque chose qui va se passer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand ils ont traversé, le peuple traverse, ils ont pris 12 pierres
pas des petits cailloux, hein, pas des graviers. Ils ont pris 12 pierres, une pierre par tribu, ils les ont sorties. Et puis ils en ont pris 12 autres qu'ils ont mis dans le Jourdain. Et quand l'arche de l'Alliance, ce qui portait l'arche de l'Alliance, pardon, sorte, le Jourdain reprend ses flots normaux. Hein. On peut penser que ça devait être impressionnant encore. Cette nouvelle génération n'avait pas vu la mer Rouge pour certains. Et voilà maintenant ce qui se passe et c'est quand même assez fort. Alors, je vais survoler hein, parce que ce serait trop long. Mais 12 pierres en Gilgal et 12 dans le Jourdain. 12 pierres là, et ça va s'appeler Gilgal hein, par la suite. Ça nous parle de la résurrection de Jésus. Si vous voulez, la mort, l'eau, le Jourdain, c'est le châtiment, c'est le jugement, c'est la mort. Voilà que ces 12 pierres sont sorties et sont mises là. Et c'est l'image, je passe vite parce que je ne peux pas l'expliquer là, ça prendrait trop de temps. Mais nous étions morts par nos offenses, dit l'apôtre Paul aux Éphésiens chapitre 5. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, etc. Et il dira plus loin, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Si vous voulez, ces pierres qui étaient là, cachées dans la mort, entre guillemets, elles sont mises maintenant en vue. Et ça devait servir de témoignage. C'est l'image de cette mort qui est cachée, je dirais, de la mort de Jésus qui est là, engloutie par le péché des hommes. Maintenant, elle est en visu, elle peut être vue. C'est la résurrection de Jésus, c'est la résurrection de l'enfant de Dieu, c'est toutes les promesses qui sont là. Et ces 12 pierres, maintenant qu'on prend, maintenant qui sont sur l'extérieur, on les met dans le lit du Jourdain, là, avant que le Jourdain reprenne sa position. Ça nous parle de la mort avec Christ. C'est une identification. Je meurs avec Jésus, mais je suis ressuscité en lui. Et on pourrait faire un parallèle. Or, si nous sommes morts, dira l'apôtre Paul, Romains chapitre 6, verset 8, avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Vous voyez, tous ces récits, ça semble des fois, quand on lit la Bible, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ces trucs? Pourquoi ils ont fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien évidemment, on est tous pareils, on s'interroge et on réfléchit. Mais on voit que finalement, rien n'est mis au hasard dans la parole, c'est pas juste pour nous faire réfléchir, pour faire réfléchir, mais il y a des raisons, il y a tout un tas d'explications, de préfigurations que le Seigneur permet. Donc ils ont vu ces choses, le Jourdain a repris sa place, et maintenant il va y avoir un temps de circoncision, hein, 12 pierres c'est chapitre 4, au chapitre 5 de Josué, c'est la circoncision et la Pâque. La circoncision qui est là, il nous est dit, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Josué chapitre 5, verset 5. La circoncision, on le sait, c'est le signe de l'alliance avec Dieu, de l'appartenance à Dieu. Alors, il y a d'autres peut-être sous-points que vous pourrez développer. C'est une mise à part, c'était une preuve de s'allier avec Dieu. Dans sa chair, une alliance avec Dieu démontrée par la circoncision, bien sûr pour les hommes. Hein, c'était une marque de mise à part, une marque de consécration. Mais l'apôtre Paul nous dit maintenant, dans Galates chapitre 5, nous le savons, en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision, 5 verset 6, n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. C'est ça qui a la valeur. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bien sûr, on ne parle pas de la circoncision, on ne doit pas se faire circoncire, ce n'est pas ce qui est dit dans la parole. Ce qui nous est dit, c'est que ça va être une circoncision de cœur, c'est-à-dire un changement de vie. Alors, si quelqu'un n'est pas en Christ, j'ai envie de dire, soyez en Christ. Soyez en Christ. Traversez le Jourdain à sec, en croyant en l'œuvre de Jésus-Christ. Croyez bien que par sa mort, il a supporté le châtiment à votre place, à notre place. Alléluia. Hein. Il y en a qui sont en Christ ici, je pense. Hein, sinon, ce serait terrible s'il n'y avait personne qui est en Christ. On est, pour beaucoup d'entre nous, en Christ. Donc, pour marcher en Christ, il faut déjà être en Christ. Pour marcher en Christ, il faut se mettre en route aussi. Alors là, je voudrais... n'oublions pas, ils ont tourné dans le désert. Ils ont vécu dans le désert, cette génération. Maintenant, ils se trouvent dans une situation, un peu un carrefour, un changement, des choses qui vont se passer qui sont différentes. Il faut qu'ils se mettent en route et qu'ils entrent maintenant dans le projet de Dieu qui était initial depuis 30-40 ans auparavant, qu'ils ont raté la génération précédente, mais maintenant ils se retrouvent devant le même choix, la même possibilité, la même démarche. Et j'ai envie de dire, il faut se mettre en route, et j'ai intitulé ici, sortez du désert et affrontez vraiment les situations qui se présentent à vous. C'est comme si je me parlais à moi hein, aussi. Hein. Ne restez pas volontairement dans le désert, c'est le temps pour vous de sortir et de faire face. Il faut se mettre en route.
c'est bien de connaître la traversée du Jourdain, mais ils sont pas restés là. Ils sont restés là 3 jours, certes, il y a eu la circoncision, le temps d'être récupéré, mais il y a la Pâque. Je l'ai survolé, mais on en reparlera une autre fois. Et maintenant, ils doivent entrer, aller plus loin. Ils font pas que traverser le Jourdain. Maintenant, c'est plutôt dans ce sens, ça dépend comment vous regardez, hein, c'est plutôt d'est en ouest qui traversent le Jourdain, parce qu'ils doivent maintenant aller vers Jéricho. Et là, il y a toute la stratégie, le pays qu'ils doivent conquérir. Ils doivent voir ces choses. Hein. Et c'est le temps de se mettre en route. Alors, on va aller lire au chapitre 5. Verset 10 à 12, je vais parler de la Pâque là assez rapidement. Les Israélites campèrent à Gilgal, 5, 10 à 12. Les Israélites campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, au soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent des productions du pays, des pains sans levain et du grain rôti le lendemain de la Pâque en ce jour même. La manne cessa le lendemain quand ils mangèrent des productions du pays pour les Israélites, il n'y eut plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. On s'arrête là, on continuera tout à l'heure. Hein. C'est fini le temps pour eux de vivre dans le désert avec la manne. C'est fini. Et un temps maintenant différent. Et quand on est né de nouveau, Dieu nous fait entrer dans sa vie par Jésus-Christ, mais ce n'est pas pour que nous restions entre deux eaux, ou entre le Jourdain, après le Jourdain, et avant Jéricho. Il désire qu'on aille jusqu'au bout des choses dans notre démarche. Et là, je nous parle à chacun d'entre nous. Hein. Il veut qu'on sorte de notre désert, dans lequel il nous a fait passer parfois, et qu'on affronte la réalité en face. Maintenant, ils doivent se nourrir des ressources du pays. C'est une autre étape. Et la parole de Dieu nous révèle que dans l'Épître aux Hébreux, il fera cette relation en disant que si on en reste au béaba des préceptes, on est au lait spirituel. Et Dieu, ce qu'il souhaite pour nous, c'est que nous ne restions pas, si vous voulez, petits dans la foi ou tout au début, même si on est né de nouveau depuis peu, depuis quelque temps. Le désir de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est de nous amener à aller plus loin et de nous faire grandir dans ses voies. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Je vous le lis dans une version un peu spéciale, Hébreux 5, 12. Hein. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Il est venu le temps de manger notre nourriture. C'est-à-dire que, mes frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Et elle nourrit notre vie pour maintenant marcher sur ce chemin-là. Attention de ne pas attendre que seulement, je nous encourage à ça. Bien sûr que c'est bien d'écouter des messages, de chercher de droite et de gauche, mais apprenez à manier la fourchette et le couteau par vous-même. Comprenez, si je vais sur Internet seulement, je ne fais que regarder, je suis passif. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, je ne dis pas que ce n'est pas bien, il y a des choses qui peuvent être bien, d'autres à vérifier. Mais par contre, Seigneur, il nous dit, mais et toi, face à ma parole, seul à seul, pourquoi passes-tu toujours par un fast-food, j'allais dire, hein? Pourquoi passes-tu toujours par un autre organisme? Fais ta cuisine, travaille la parole, hein? Je ferme la parenthèse. Il est venu le temps de manger une autre nourriture. Jusqu'à présent, elle leur était donnée à portée de main. Maintenant, c'est eux qui doivent aller chercher les nourritures du pays. Aller regarder les semences, récupérer, etc. Hein? C'est à eux, par eux-mêmes, à s'alimenter. Vous savez, notre régime alimentaire a changé avec l'âge. Est-ce qu'il y a encore des gens de plus de 5 ans qui prennent de biberon ici? J'espère pas. Si vous levez la main, là, je pense que même si vous le faites, vous ne levez pas la main. Hein. Dans le domaine de la foi, il en est de même. On ne peut pas rester au biberon. Ce serait dramatique. Hein, sinon, le dernier qui parle a raison. Et c'est pas biblique. Soyons comme les chrétiens de Béry qui ont cherché. Hein. Et je dirais que ce ne sont plus que quelques pensées spirituelles basiques qui nourrissent notre cœur. Mais bien plus la nourriture solide. Je ne sais pas ce que vous allez manger à midi, peut-être vous allez jeûner. Si vous jeûnez, que Dieu vous bénisse. Si vous mangez quelque chose un peu de consistant, il y en a, ils sont en train de regarder le bout de steak, le poulet rôti, certainement là. Vous revenez avec moi, vous n'êtes pas à midi encore, quelques minutes encore. Hein. C'est la nourriture solide du pays maintenant. Il faut, je dirais, rechercher à manger ce qui est dans cette parole encore et que le Seigneur nous aide. C'est difficile de comprendre la parole, mais le Seigneur veut se glorifier. Hein. Et puis, donc, il faut aller se nourrir par eux-mêmes maintenant dans ce nouveau pays et il ne doit pas refuser le combat. Et moi, j'aime ça, il ne refuse pas le combat. Autant au début, quand ils avaient fait la première fois qu'ils avaient espionné, ils avaient été dans le pays de Canaan, ils étaient par incrédulité, l'épître aux Hébreux nous dit, à cause de leur incrédulité, ils ne purent rentrer dans le pays promis, Hébreux 3:19. Autant maintenant, on voit qu'ils ne sont pas à refuser. Certainement, on ne sait pas si le peuple a hésité. Mais quoi qu'il en soit, contrairement à la génération précédente, eux, ils sont prêts à entrer dans le pays promis. Hein. Et quand Paul dit « combat le bon combat de la foi », à Timothée, c'est comme s'il dit « ose affronter les choses avec foi ». Crois bien que les situations que tu traverses sont pas infranchissables pour toi, à tes yeux, à point de vue humain. Oui, elles sont infranchissables. Mais par la grâce de Jésus et la force de Dieu, par la foi que tu as en Jésus-Christ, tu peux faire face. Et aujourd'hui, on est dans un temps où tous ont subi. Vous savez, cette semaine, j'ai fait du placo. Un petit peu pour chez une de nos filles, pendant qu'on gardait les gamins, le grand-père, il faut le mettre au travail. Alors le grand-père, il a fait du placo. Et on mettait du placo au plafond, un plafond bas, donc on n'avait pas besoin de lève-plaque, il y avait assez de mains, il y avait 6 mains, donc on devait y arriver. Et je les faisais tenir, et c'est moi qui mettais les vis. J'avais la bonne part. Hein. Et je les voyais, ils tenaient, ils étaient là, moi j'avais du mal à attraper les vis dans la poche et tout ça. Et vous savez, quand on tient quelque chose au début, on tient. On fait les malins, mais oui, non. Hein, et puis et vous les voyez, dépêche-toi, ils commencent à devenir rouges. Et vous rigolez un peu, vous faites exprès de les faire marronner, je ne sais pas comment on dit. Hein, et bizarrement, la vis, elle tombe, etc. Ils étaient un peu en colère. Et des fois, bon, je pensais à ça, je souriais, mais vous savez, des fois, dans la vie, il y a des choses qui nous pèsent. On les tient un moment, on y arrive, ouais, c'est bon, ça tient bon. Mais avec le temps, ouais, à cause de la pression qui est là, qui s'accumule, on aurait tendance à relâcher. Et dans la foi, il en est de même. Et aujourd'hui, dans le fonctionnement et à cause de cette pandémie, entre autres, il y a beaucoup qui subissent la pression. Nous tous, hein, on n'est pas épargnés. On subit une pression morale, matérielle, financière, etc. On subit cette pression. Et alors, on tient, par la grâce de Dieu. Mais des fois, on a tendance à glisser et à relâcher. Et je dirais que, bien sûr, il nous faut faire face. Et quand l'apôtre Paul dit « combat le bon combat de la foi », c'est-à-dire, il ne dit pas « tu auras toujours les bras bien tendus, t'inquiète pas, tu vas y arriver tout le temps, t'es parfait, t'es un surhomme ». Ne croyez pas que la vie chrétienne, c'est la super... c'est un manga... C'est, comment on dit ça, Marvel, je ne sais pas comment ils appellent ça, les jeunes, je ne comprends rien. Ces trucs-là, vous savez, où ils ont des super pouvoirs, là, super-héros. La vie chrétienne, ce n'est pas super-héros. La vie chrétienne, c'est que des fois, tu fléchis. Mais lui, il est tout puissant. Des fois, tu es peut-être faible, mais lui, il est fort. Et sa force se manifeste dans ces moments les plus compliqués. L'apôtre Paul, quand il dit « combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle », il lui dit quelque part « tu ne sais pas ce qui va devenir dans ton ministère, mais le plus important est de mener le beau combat de la foi. Car ce n'est que par la foi que l'on obtient l'aide et le secours de Dieu. » Que par la foi. C'est par la foi que le muraille de Jéricho, nous est dit dans Hébreux 11:30, tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Ne refusons pas le combat. Je remarque que si je m'écoute, il y a beaucoup de combats que j'évite. Je ne sais pas vous. J'allais dire bienvenue au club des êtres humains. On préfère être tranquille que d'affronter des circonstances. Quand je dis le combat, on comprend bien. Hein, ce n'est pas contre des gens, c'est contre des circonstances. Pour marcher en Christ, il faut déjà être en Christ, c'est vrai. Il est nécessaire de se mettre en route. Il est indispensable aussi qu'il soit devant nous, Jésus-Christ. Et lisons maintenant la fin du chapitre 5, et je vais terminer par ça. Chapitre 5, verset 13. Comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il dit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna, lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Josué fit ainsi. Ça vous rappelle quelque chose, hein ? Ça nous rappelle Moïse au buisson ardent. « Ôte tes sandales, etc. Hein » Mais ici, vous voyez, ils sont là, ils ont traversé le Jourdain, ils vont conquérir. Dedans, leur cœur, ça devait, on va y arriver, pas, on n'était pas des guerriers, on a traîné dans le désert. Hein, quoi, on a traîné ? On a tourné dans le désert. On n'a pas fait des cours de commando, de combat, etc. On n'a pas d'armes, plus que ça. Donc ils arrivent là devant le Jéricho, impressionnant, et certainement que ça devait être difficile, même si Josué plusieurs fois a entendu « Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». La promesse de Dieu avait été donnée plusieurs fois, parce que c'est sûr que la tâche était grande. Dans Josué 1,9, il lui dira « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage ». Vous connaissez ces passages en Deutéronome aussi. « Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras ». C'est bien de le dire, c'est bien même de le dire aux autres. Hein « Oh, l'Éternel, il ne nous abandonne jamais, il ne t'abandonnera pas ». C'est facile, je me lave les mains. Allez, ciao. Mais quand ça ne va pas, quand je suis devant un Jéricho, Seigneur, je t'en supplie. Ouais, mais est-ce qu'il a dit qu'il allait nous abandonner? Non. Mais nous, dans notre tête, on pense que Dieu nous a abandonnés. J'aime ce verset de Psaume 91 qui dit ceci concernant Dieu. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité. Psaume 91, verset 4. Vous savez, il n'y a pas eu cette révélation de cet homme mystérieux, on va voir qui est-ce, des semaines avant. Il y a eu cette révélation de cet homme mystérieux au moment où il se présente devant Jéricho. Alors j'essaye de savoir s'il y avait que Josué au début avec quelques responsables ou les peuples étaient loin. On ne voit pas, on ne sait pas. On pense qu'ils sont tous là. Alors bien sûr qu'il y avait ceux qui commandaient entre guillemets, qui étaient là, qui réfléchissaient. Et voilà qu'au moment où ils sont là, c'est là que la révélation de Dieu se manifeste. Et ça c'est bon pour nous, ça nous encourage. Quelqu'un a dit « Dieu n'est jamais en retard, c'est l'homme qui est impatient ». Nous, on aimerait, en tant que chrétiens, avoir toujours de l'avance. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines, 3 semaines, dans ces événements? Dieu va me parler. Alors, Seigneur, montre-moi. Et le Seigneur ne nous montre pas. Mais le Seigneur, il te dit, par contre, marche par la foi. Il te dit, avance. Et au moment opportun, il se révélera. Au moment opportun, il te montrera. Au moment opportun, il t'encouragera. Il te montrera que finalement, ce n'est pas par tes forces seulement. Heureusement, d'ailleurs. Mais c'est par sa puissance, parce que Jéricho, ils n'ont pas touché un caillou. Hein. Ils n'ont pas dynamité une quelconque pierre. Hein. Ils n'ont rien fait. Si, ils ont fait, ils ont obéi à ce que Dieu demandait, même si c'était bizarre. Hein. C'est pas vrai? Donc Dieu n'est jamais en retard, c'est l'homme qui est impatient. Vous savez, comme les disciples qui sont sur le lac, Jésus, après la multiplication des pains, il monte pour prier, mais il les renvoie pour traverser le lac, aller me précéder là-bas, de l'autre côté. Et lui, il prie sur la montagne. Et il commence, il nous dit que c'est... Alors, bon, c'est des veilles, vous savez, c'est des plusieurs heures qui s'accumulent. Et c'est dans la dernière veille seulement, alors qu'il y a la tempête sur le lac, que les disciples se démènent, tant bien que mal, avec leur rame, etc. Ils se disent, c'est la fin, peut-être. Je ne sais pas ce qu'ils se disent, tant mieux. Les auteurs ne nous le marquent pas, mais on peut deviner, parce qu'on est fait du même bois. On sait ce qu'ils pensent, à ce moment-là, certainement. Mais Jésus n'est pas arrivé au tout début de la situation difficile. Et je voudrais nous encourager. Je veux me dire, quand tu es dans une situation difficile, arrête de t'impatienter, mais crois bien que le Seigneur viendra au moment où il le faut. Ne cherche pas à le remuer ou à le réveiller alors qu'il dort dans la barque. Pourtant, des fois, on le réveille. Mais plutôt, crois bien qu'il va venir au moment où il le faut. Rappelle-toi pour Jéricho, il est venu au moment où il le faut, même s'il ne reconnaît pas d'André, hein, au Seigneur, on va le voir. C'est seulement donc au moment où ils arrivent devant Jéricho que la révélation est manifeste. C'est seulement parce qu'ils ont obéi qu'ils ont reçu les directives nécessaires. L'obéissance de la foi nous garantit quelque part l'action du Christ, l'action de Dieu dans nos vies. Il nous parle. Hein, et l'apôtre Paul dira, bon, je vais passer certains versets, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Ça c'est Romains chapitre 1, verset 5. Et il finit, l'épître de Paul aux Romains, il finit comme ça. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. J'aimerais que le Seigneur dise de l'église Albi, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Mais déjà, que tu l'apprennes moi, hein, un peu plus. Je me réjouis donc à votre sujet, et ce que je désire, c'est que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Romains 16, 19. Alors, qui est ce personnage mystérieux? Ben, on le comprend aisément. Il dira, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive quand? Maintenant. Hein, j'arrive au bon moment. J'arrive là. C'est ce qu'on appelle une théophanie. Une théophanie, c'est une apparition de la divinité sous une forme sensible. Et on peut dire, alors je vous fais court, hein, on présuppose que c'est une manifestation de Jésus dans l'Ancien Testament qui est là.
D'ailleurs, on se prosterne devant lui. D'ailleurs, il lui dit d'ôter ses sandales. Devant les anges, personne ne se prosterne. Hein. Et quand il y en a qui pensent qu'il faut se prosterner, ils disent non, ils réagissent. Et Josué se prosterne à ses pieds. Et cet homme, cette révélation de ce personnage qui est là, il a une épée nue dans la main. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Là aussi, je vous invite à essayer à suivre, vous allez suivre sans problème. Vous savez, si on remonte à la génération précédente, c'était la verge de Moïse, le bâton de Moïse, ça figure l'autorité divine. Il a levé le bâton, la mer s'est ouverte, Dieu lui dit de lever le bâton, et la mer s'ouvre, et c'est l'autorité divine sous laquelle Israël a traversé la mer Rouge. Mais maintenant, elle est remplacée ici par l'épée nue dans la main de ce personnage. Hein, ça symbolise le jugement divin qui assure la victoire sur Canaan, le jugement divin sur le peuple de Canaan. Autrement dit, je vous le dis autrement, Israël était sorti d'Égypte comme des brebis qui étaient menées sous la houlette, dirons-nous, de Moïse, sous le bâton de Moïse. C'est le psaume 78, verset 52 qui dit « Il fit partir son peuple comme des brebis, il les conduisit comme un troupeau dans le désert, sous l'autorité de Moïse. » Maintenant, c'est un peuple de guerriers qui doit conquérir le pays à la suite du chef de l'armée de l'Éternel. Vous voyez, c'est pas les mêmes, c'est deux générations différentes, mais deux étapes différentes. Cette scène-là, ce qui se passe là, c'est aussi un jugement, si vous voulez, par anticipation, une anticipation des jugements quand Christ sera là. Hein. Le Fils de l'homme apparaît dès le début. Vous savez, du livre de l'Apocalypse, on le voit, quand Jean a cette révélation sur l'île de Patmos, il voit Jésus d'une manière, avec tout un tas de descriptions du corps, etc. C'est resplendissant, il y a tout un tas de choses qui est décrit, et c'est difficile pour lui de décrire ça, parce que c'est une vision qu'il a eue, une révélation. Hein. Mais Apocalypse 1,16 dit ceci, « Il avait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point », etc. Hein? Donc on voit que c'est quelque part c'est ces moments où l'Apocalypse va révéler tout, vous savez, toutes ces étapes jusqu'au jugement dernier, au grand trône blanc. Et dans Apocalypse chapitre 19, verset 11, il nous est dit « Puis je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. » Et je vais plus loin parce que je voudrais aller un peu plus vite. De sa bouche, verset 15, sort une épée tranchante pour frapper les nations. Donc quand Josué et tous ceux qui sont là voient cet homme mystérieux, Jésus-Christ, une révélation de Jésus-Christ, l'épée à la main, c'est pour exercer un jugement, pour agir contre ceux qui sont opposés au peuple de Dieu. Je vais bientôt terminer, mais des fois, en tant que marcher par la foi, ça amène une certaine crainte, une appréhension. Est-ce qu'on va y arriver ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est inconfortable comme situation parce qu'on se sent, on maîtrise pas. On maîtrise pas beaucoup. On maîtrise que notre part. Et notre part, c'est d'être obéissant dans la foi. Mais tout le reste appartient à Dieu. D'ailleurs, très souvent, le Seigneur nous amène un petit peu sur des chemins où il nous apprend à lâcher prise sur nos responsabilités. On aimerait tellement bien gérer les choses que des fois, il nous surprend. Alors, on est obligé d'être... ça nous fait mal, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais que penser, je me suis posé la question, que pensaient les nations, les autres nations, à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'ils pensaient les autres peuples du peuple hébreu ? Et j'ai été chercher un petit peu, et je livre trois passages, c'est dans Josué 2,9. Vous savez, quand Rahab accueille les deux nouveaux espions, deux espions, dans sa maison, pourtant c'était une prostituée, pourtant c'était pas le meilleur endroit où il aurait fallu aller, et c'est là où Dieu nous surprend, hein, Dieu nous étonne, parce que l'évangile c'est pour tous. Et Rahab leur dit, 2 verset 9, je le sais, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Je suis convaincu que tous les Hébreux ne devaient pas penser ça, ils devaient se dire, où on voit, ils devaient avoir peur, ils devaient appréhender. Et ce matin, on a entendu parler de lâcher prise sur nos peurs, nos craintes, et les abandonner. Et des fois, souvent, tant que dans la marche avec Dieu, on appréhende. Mais regardez que les autres, quand je dis les autres, ceux qui ne connaissent pas la grâce de Dieu, ils sont impressionnés de voir qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent marcher par la grâce de Dieu. Chapitre 5, verset 1. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël,
jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Vous l'avez lu ça aussi dans la Bible. Hein ? Mais est-ce qu'on s'y est arrêté ? Non, pas plus que ça. Moi, je ne me suis pas arrêté plus que ça. Mais ils ont été complètement impressionnés. Ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Pas parce que les enfants d'Israël, c'était des héros, mais parce qu'ils voyaient que l'Éternel était avec eux. 6, verset 27. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Alléluia. Ce qui fait la renommée d'un enfant de Dieu, c'est pas ce qu'il est et ce qu'il accomplit par ses forces, mais c'est celui en qui il croit et son autorité. Ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, c'est qu'il agit. Je dirais que quand il obéit au Seigneur, il est assuré de la fidélité des promesses de Dieu, c'est certain. Il n'y a pas à tergiverser. Alors je conclue. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Alléluia. On a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez le recevoir, traverser le Jourdain aujourd'hui, ce matin. Traverser le Jourdain, accepter l'œuvre de Jésus spirituellement. C'est miraculeux, c'est extraordinaire. Mais c'est une vie nouvelle. C'est quelqu'un d'un Christ, une nouvelle créature. Mais aussi maintenant, si vous l'avez connu, si vous êtes en Christ, maintenant il est nécessaire de se mettre en route. Nourris-toi différemment. Ne reste pas au lait spirituel. Mène le combat de la foi. Je l'ai dit tout à l'heure, il est plus facile de ne pas vouloir aller et affronter les situations qui se présentent en nous, devant nous. Pardon. Il est plus facile de rester volontairement dans le désert. Mais non, c'était pas mal finalement. On avait la nourriture, les vêtements ne s'usaient pas, c'était pas mal. Et non, il faut que tu marches, il faut que tu ailles de l'avant. C'est le temps pour vous de sortir et de faire face. C'est comme si ce qu'il disait au peuple, c'est pas dit, mais on peut le déduire. C'est maintenant le temps de sortir et de faire face. Il y a des situations qui semblent être des forteresses devant nous, non ? Pas vous ? Moi, j'ai des situations, là encore ce matin, je disais, Seigneur, là devant cette situation, je ne peux pas la gérer. Je suis incapable. C'est un Jéricho, mais je prêche Jéricho ce matin, ça tombe bien. Donc je veux bien me laisser conduire par toi, pourvu que je te sois obéissant. Tu feras comme tu voudras, pourvu que j'obéisse à ce que tu me demandes. Laissez Christ devant nous. C'est le troisième point. Vous savez, pour tous ceux qui appréhendent la confrontation avec l'ennemi, et on est tous, je crois, plus ou moins interpellés par ça, on peut se décourager à cause de l'ancienneté d'une situation. Jéricho, c'est pas construite deux jours avant qu'ils arrivent. Hein. Elle est là depuis longtemps. Et il y a des Jéricho, ils sont là depuis longtemps dans la vie devant nous. Et on peut dire, ouais, mais elle est là depuis tellement de temps que on fait avec. Mais vous savez, les forteresses de raisonnement devant la puissance de Dieu, elles peuvent tomber. Et tous ces raisonnements, faux raisonnements, je pensais à ça et tout à l'heure, alors j'étais là-haut, je disais, mais Seigneur, finalement, des fois, l'ennemi, c'est moi-même mon ennemi par mes pensées. C'est moi-même, des fois, l'ennemi de mon âme par ces faux raisonnements logiques, intellectuels. C'est moi qui me trompe. Et je ne veux pas laisser l'autorité, mes sentiments avoir autorité sur ce que toi tu dis, mais je veux plutôt laisser ta parole avoir autorité. Alors mes frères et sœurs, vous comprenez, ce n'était pas du tout un jugement ou autre, mais c'est un encouragement. Le Seigneur, je crois, nous encourage à dire, nous pouvons marcher en toi, Seigneur. Tu as tout donné, tu nous donnes tout ce qu'il faut pour pouvoir marcher en toi. Alléluia. Il nous donne tout. Et il va nous donner tout ce qu'il faut. Alors si tu es découragé, baisse pas les bras. Oui, tu baisses les bras, mais compte sur la force du Seigneur. Heureusement qu'il est venu avec l'épée juste avant. Parce qu'ils ont obéi, ils ont eu la stratégie, ils ont tourné, ils ont fait qu'obéir. Et Dieu soit béni, la gloire de Dieu s'est manifestée. D'autre fois, ils ont moins obéi. Ah, ils n'ont pas consulté Dieu. Juste après, pourtant c'était bien plus infime, ils se sont, excusez-moi le terme, vautrés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont encore fait par leur propre force. Et quand on pense qu'avec sa raison, et on marche par la raison et la foi après, on se trompe. Marchons par la foi. Par la foi. C'est là le désir de Dieu pour chacun d'entre nous, que Dieu vous bénisse. Et s'il y a un Jéricho, croyez bien que si vous êtes fidèle au Seigneur, ce Jéricho, peu importe comment il peut être grand, lui, il a la puissance pour le renverser. On prie ensemble. Grâce, notre Père, vraiment de tout notre cœur, nous te disons merci de ta patience à notre égard. Combien de fois nous ne comprenons pas toujours, nous dévions, nous titubons ou passons à côté de ce que tu veux, mais tu nous invite par ta parole à regarder vers toi. Oui, tu es arrivé au bon moment. Et tu arrives toujours au bon moment, parce que tu es Dieu. Et tu es le maître du temps et des circonstances, nous le savons. Et nous voulons te prier de nous encourager les uns les autres à marcher par la foi. Je prie pour tous mes frères et sœurs. Tu vois les défis, les choses qui peuvent être comme des Jéricho que d'autres ne voient pas, mais auxquels on est confrontés les uns les autres à cause des circonstances de la vie. Demandons, Seigneur, que nous ne restions pas dans notre désert, que nous ne refusions pas de confronter par la foi ces réalités. Nous rappelons que les murailles sont tombées par la foi dans ce que tu avais dit. Et Seigneur, nous croyons que les forteresses de raisonnement, les choses qui sont là devant nous, les circonstances fâcheuses, Seigneur, si tu nous invites à les confronter, ce n'est pas pour nous mettre en échec, mais c'est pour nous apprendre à dépendre de toi. Et nous voulons dépendre de toi, Seigneur. Nous l'avons dit, nous voulons être plus près de toi, nous voulons nous abandonner à toi, nous voulons connaître bien plus de toi. Et nous te disons merci pour les victoires déjà remportées, mais nous croyons encore que tu veux nous faire grandir dans la foi et tu veux nous amener plus loin. Nous saluons aussi, Seigneur, vraiment toute ta victoire. Et c'est vrai, c'est toi qui as ouvert ce Jourdain, ce jugement qui était sur chacun d'entre nous, c'est toi qui l'as ouvert. Et je vais vous inviter, mes frères et sœurs, à prendre le pain et le vin.